C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Avant de plonger dans le grand débat entre les villes et le gouvernement du Québec, rappelons deux faits peut-être importants quand on parle de météo et de changement climatique. D'abord, ce matin, je regardais les données au sujet de la météo dans le sud-est de l'Asie, dans le sud également, particulièrement aux Philippines, mais ailleurs également, avec des ondes de sécheresse jamais vues, avec des demandes en électricité à Bangkok en raison du besoin de climatisation. On a atteint 40 degrés durant la journée de mercredi. Et si vous prenez l'indice de chaleur, là, ça donne autour de 52 comme perception. Évidemment, c'est la période de l'année la plus chaude, mais on est encore en train de battre des records. C'est important de se rappeler ces quelques données. C'est pas dans la catégorie « on fait peur aux gens », mais on le voit que mois après mois, les températures sont toujours à la hausse. Et ce matin, la presse publie un dossier intéressant sur les incendies de forêt. Et on se prépare pour les prochaines semaines. Et on a parlé avec des élus, que ce soit le ministre Bonnardel, des élus municipaux. Et on sait que le Québec, quand vous regardez la carte des risques, c'est ici qu'on retrouve le plus de bâtiments exposés à un potentiel de feux de forêt. C'est 30 000 habitations, dont 15 000 sont jugées à haut risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ils sont dans des zones où le potentiel d'incendie est important et pas juste menacé par la qualité de l'air, mais des gens qui habitent des endroits où le feu peut les amener à quitter d'urgence ou encore à être incommodés par une mauvaise qualité de l'air. Donc, dans la presse, vous pouvez lire ça ce matin. Puis ça nous amène à ce grand débat de société dont on a été témoin hier entre les élus municipaux et le gouvernement du Québec. Si on fait espèce de nomenclature des insultes, M. Legault a qualifié les maires de quêteux puis de gens qui savent pas gérer. Puis le maire Marchand a parlé, évidemment, du premier ministre puis de Mme Guilbeault comme étant des gens de l'époque du temps d'une paix. On écoute d'abord la ministre Guilbeault qui avait dit « Nous, on gère pas le transport collectif. »
Gérer le transport collectif des sociétés de transport, c'est pas une mission de l'État. On a déposé un budget avec un déficit de 11 milliards parce qu'on a choisi de payer plus les profs et les infirmières, notamment dans le réseau de la santé. Et nous, on n'a pas le luxe de refiler nos déficits ailleurs. Alors, je pense que chacun, comme j'aime bien dire, doit gérer sa fougère puis trouver ses propres solutions parce que...
Bon, alors ça, c'est ce qu'elle a dit à l'étude des crédits. Réponse du maire de Québec.
J'ai pas confiance en Mme Guilbeault parce qu'il n'y a pas de vision qui émane de là. Elle parle pas d'autobus, là. Elle parle pas de flexibus, elle parle pas de vélo, elle parle pas de covoiturage. Elle veut développer des routes. Mais ça, on revient au temps d'une paix de Joseph Arthur.
Bon. On va reprendre certains éléments de ça. D'abord, hier, Mme Guilbeault a nuancé un peu en disant peut-être que les gens m'ont mal compris. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne gère pas les sociétés de transport. J'ai devant moi un communiqué qui date de 2017 où on annonce fièrement la mise en œuvre de la nouvelle patente régionale de transport en commun à Montréal. Et ça dit la chose suivante. Le gouvernement du Québec, 1er juin 2017, souligne l'instauration de la nouvelle gouvernance du transport collectif. Gouvernance veut dire gérer, ou dernière nouvelle. Dans la grande région métropolitaine, après 10 mois de travaux visant la mise en œuvre de la loi modifiant principalement l'organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine, blabla, et on a créé l'autorité régionale de transport métropolitain. C'est donc créé par Québec. Québec gère donc le transport collectif. Pas chacune des sociétés de transport, mais ils ont créé cette structure-là. Premier point. Le deuxième point, je suis obligé de dire qu'on ne comprend pas trop la vision du gouvernement du Québec concernant le transport collectif. Il y a le discours, exemple de Pierre Fitzgibbon, qui dit qu'il y a trop d'autos, puis il faut électrifier les transports, puis il faut mettre en lumière et en valeur le transport collectif. Dans la région de Québec, Mme Guilbeault nous explique que le tramway, on était pogné avec ça, puis là, on attend que la Caisse de dépôt nous arrive avec sa proposition dans quelques semaines, au mois de juin. Ça a été confirmé hier par M. Émond, PDG de la Caisse, qui a dit « Oui, oui, On va présenter des scénarios. Mais c'est quoi le plan? Et jusqu'à quel point, dans la vision du gouvernement, le transport collectif dans le Grand Montréal est important? Madame Plante avait raison hier de souligner que tu peux pas attendre sur le coin d'une rue pendant une heure qu'un autobus se pointe sans, évidemment, faire en sorte que, disons, l'attrait du transport en commun s'effiloche. Alors, le message est assez simple. C'est quoi votre vision, là? Vous dites qu'ils sont mal gérés. On va vous donner des exemples aussi à Québec de mauvaise gestion. J'y arrive dans pas longtemps. Alors, ça, c'est la première chose. Maintenant, les élus municipaux. Ce ne sont pas des modèles non plus de gestion. On va se le dire, là. On a parlé cette semaine des voitures achetées à Laval, là, dont le maire veut pas. Il a pensé à les revendre. Puis on se demande exactement comment ça a pu passer, cette affaire-là. Est-ce que je voulais que je fasse certaines listes de dépenses de la Ville de Montréal qui s'improvisent dans toutes sortes de champs de compétences alors qu'on perd de vue, comme on dit, le mandat premier, c'est-à-dire sécurité dans les rues puis la propreté dans les rues. Alors, c'est vrai que les villes, puis on a eu ce débat un peu au début de la semaine, on manque d'argent, on va taxer le monde. Puis le maire de Laval qui vient nous dire qu'il y a trop de monde autour de la table. Comment voulez-vous que le citoyen ait envie de faire un chèque en blanc à des gens qui garochent l'argent par les fenêtres? Ce qui m'amène à vous parler de certains exemples de mauvaise gestion. Un des trucs, c'est de faire en sorte qu'on crée des fonds dédiés. On a le fonds vert, on a également, on a changé le nom parce qu'on s'est aperçu que le fonds vert, c'était la petite caisse des ministères. Quand ton projet ne marchait pas dans tel ministère, t'allais fouiller dans le fonds vert. Là, on a donné une nouvelle mouture, nouveau logo, puis, mais c'est pas mieux géré. Ou en tout cas, pas tellement mieux. On a créé la Société québécoise du cannabis pour, supposément, avec les profits, financer les organismes qui s'occupent des gens qui ont de la dépendance. Bref, relié aux problèmes d'alcool puis de consommation de drogue. Francis Veil, dans la presse de ce matin, nous dit que c'est pas ça pantoute qui arrive. C'est pas ça du tout. Alors, ils font quoi avec l'argent? Ils financent des fruits puis l'allaitement. C'est pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est pas ça, en principe, qui doit être fait. On sait également que dans le cas du fonds vert, 40 % des projets financés sont mal évalués. Et l'argent n'est pas dépensé. Dans le Devoir ce matin, en santé, on a ramassé 400 millions dans la poche des médecins spécialistes avec l'Institut de la pertinence des actes médicaux. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec l'argent? En principe, c'est de rattraper les interventions chirurgicales et faire en sorte que les gens soient donc opérés plus vite. L'argent doit servir, et je cite, à payer les heures supplémentaires volontaires aux équipes de professionnels dans les blocs opératoires. On a 400 millions. On en a dépensé combien? 60. Fait qu'on est bon pour aller chercher l'argent, mais visiblement, on n'est pas capable de dépenser l'argent. Puis je pourrais donner d'autres exemples. Le logement, où on annonce des centaines de millions, puis les projets ne lèvent pas ou prennent tellement de temps que la structure de financement devient périmée. En résumé, si on peut se parler entre adultes et non pas au niveau de la maternelle, là, c'est très rigolo, là. Les quêteux, puis Joseph-Arthur Lavoie, le temps d'une paix, puis l'époque de l'organisateur libéral, qui était Joseph-Arthur, puis que les chemins étaient bien nettoyés selon pour qui tu votais. Puis on compare souvent M. Legault à Duplessis. Tout ça est distrayant, mais sur le fond, on constate, un, qu'il n'y a pas de vision, ou en tout cas, on ne l'a pas encore entendu. C'est quoi le plan de match pour le transport collectif, pour la lutte réelle au changement climatique? Celui qui en parle le plus, c'est Fitzgibbon. C'est quand même assez étonnant. Tu t'attends à ça du ministre de l'Environnement, tu t'attends à ça de la ministre des Transports. Mais on ne l'a pas, ce portrait-là. Et les élus municipaux n'ont pas de leçons non plus à donner sur la qualité de la gestion. Ils se réunissent dans des structures d'une lourdeur, pas d'imagination, et le seul mot qu'ils ont en tête, c'est de taxer, taxer, taxer. Sauf que le monde est un peu tanné. Surtout que quand on regarde la façon dont c'est administré, t'as pas le goût nécessairement d'aller encore en rajouter dans les coffres. Je reviens sur cette saga qui est d'une tristesse infinie, c'est-à-dire cet homme de Laval qui était en voyage à Cuba en vacances avec sa fille et est en train de nager quand il y a eu un malaise cardiaque. Il est décédé, Monsieur Farage Alla Jarjour. Et puis, finalement, on a envoyé le mauvais corps à Montréal. On s'est retrouvé avec le corps d'un Russe et le corps de Monsieur Jarjour, finalement, on l'a su, a été enterré en Russie. Bon, tout le monde s'excuse, là. Le Cuba, le gouvernement cubain s'est excusé. Du côté du ministre Mélanie Joly, on a même appelé personnellement la famille pour dire on s'en occupe. Et on s'en est occupé. Puis on a payé ce que la famille avait payé. On a donc remboursé. Le corps n'a pas été rapatrié. Et là, la famille attend pour faire son deuil. Au moins, devant la pression médiatique, Ottawa s'est comme réveillé. Mais, je veux juste rappeler à quel point cette famille-là a été abandonnée par les autorités canadiennes. Que les consulats, de façon générale, font un travail médiocre. Et quand c'est sûr que les projecteurs sont braqués, là, tout le monde s'active et on règle le cas. Imaginez, cette famille ne dit pas un mot là sur la place publique. Pensez-vous sérieusement que la ministre va téléphoner? Pensez-vous sérieusement qu'on va mettre autant d'efforts pour trouver le corps et de dire, ben savez-vous, il est en Russie? C'est pas que c'est la faute du Canada, mais le Canada n'a pas vraiment aidé avant le début de la semaine cette famille. Je reviens à certaines factures. Par exemple, la facture du Stade olympique. Le Journal de Montréal nous dit ce matin que on a oublié d'annoncer aux gens certaines dépenses qui sont automatiques dans la nouvelle configuration du stade, là, les changements qu'on doit faire. Alors qu'on avait annoncé que de remplacer le toit et l'anneau technique, ça coûtait 870 millions. Ben, il faut ajouter également des sommes pour des équipements comme, par exemple, la ventilation, l'éclairage, l'électricité, les haut-parleurs. C'est pas un caprice, c'est la réalité d'un stade. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a pas dit? C'est pas, peut-être qu'on voulait pas faire peur au monde parce que ça va coûter 1 milliard au final. Et ajouter à cela des budgets récurrents pour changer les gradins. Fitzgibbon, qui est le ministre responsable de la métropole, le dit aussi. C'est sûr qu'il va s'ajouter des dépenses. Alors, peut-être qu'on voulait pas dire tout d'un coup, ça va coûter 1 milliard, puis là, le journal a épluché les contrats, puis il manque pas mal d'éléments. C'est comme si vous faites construire votre maison, puis vous dites, OK, on va mettre des portes, les fenêtres, le toit, le sol, mais il n'y a pas de filage encore de passé pour l'électricité. Ben, il va falloir que tu en mettes de l'électricité. Il n'y a pas encore les tuyaux. C'est pas compté ça, mais ça fait partie des éléments essentiels. Donc, les détails de ça dans le journal. Radio-Canada qui nous dit que Québec veut laisser la place au secteur privé pour les bornes de recharge électrique. Donc, les sociétés... Hydro-Québec dit, plus on va avancer vers 2030, plus on va se retirer. Et vous avez les stations-service qui lèvent la main en disant, on est répartis sur le territoire. Puis, c'est d'être logique, là, dans le sens où t'as besoin de plus en plus de bornes. Les stations d'essence sont appelées, peut-être pas à disparaître, mais à changer de vocation. Est-ce que ça va coûter plus cher? C'est sûr. Est-ce qu'on va remplacer graduellement la taxe sur l'essence? Pensez-vous que le gouvernement va laisser filer une taxe qui rapporte autant? Quand les gens vont consommer moins d'essence, plus d'électricité, c'est clair qu'on va aller chercher de l'argent de ce côté-là. Donc, Hydro-Québec qui va graduellement céder le pas à l'entreprise privée. Si on parle de panier d'épicerie maintenant, Statistique Canada a publié des chiffres intéressants sur le comportement des consommateurs. Les gens vont encore à l'épicerie, mais dépensent moins. Je pense aux épiciers traditionnels, les bannières qu'on connaît comme Métro et autres. Les deux gros joueurs de l'alimentation au Canada, c'est Walmart et Costco. Et d'autres joueurs, on l'a déjà dit, comme Dollarama, ont fait un peu leur apparition dans le décor, tigre géant ailleurs au Canada. Mais c'est vraiment là un marché qui est occupé par Walmart et Costco. Et quand le ministre François-Philippe Champagne dit qu'il veut amener de la compétition venant de l'extérieur, elle est déjà pas mal implantée avec Walmart et Costco. Et les gens ont ce réflexe de dire on va dans des super gros magasins, puis on achète parfois en plus grosse quantité, puis on obtient comme ça donc un meilleur prix. Et cette tendance-là, elle est vraie partout. Ensuite, ce matin, parlons également des consultations de la Ville de Montréal. C'est assez intéressant parce que dans la presse, on nous explique que la Ville de Montréal a fait un sondage. En fait, c'est plutôt la Société de développement commercial, là. Mais ça concerne les piétons dans le Vieux-Montréal. 54 % des commerçants, habitants et travailleurs sont défavorables ou très défavorables au plan de l'administration Plante. C'est quoi le plan? C'est de piétonniser totalement ou partiellement des tronçons des rues Saint-Paul de la commune, Place d'Armes et Saint-Sulpice. Et à certains endroits, les véhicules pourraient encore passer, mais à très basse vitesse. D'autres rues verraient leur voie de circulation être réduite pour laisser plus de place aux piétons et changer le mobilier urbain et rendre ça plus vert. Dans beaucoup de villes du monde entier, les quartiers historiques ne sont pas accessibles aux voitures ou très peu ou à des moments très précis. Pourquoi? Parce que les rues sont étroites, parce que les quartiers sont visités par des touristes, ce qui est le cas du Vieux-Montréal. Mais c'est clair que les gens qui vivent là sont pas du tout confortables avec cette idée. Et il faut se méfier des consultations organisées par la Ville de Montréal quand vient le temps de faire passer un projet. Le plus bel exemple, c'est ce qui se passe dans Saint-Henri. Alors qu'on a ouvert la maison Benoît Labre le 15 avril dernier, qui est un endroit où on peut aller s'injecter de la drogue. Les citoyens se sont fait bardasser avec des pseudo-séances de consultation. On changeait l'adresse, on étirait la période de questions, on écœurait les citoyens qui exprimaient leur désaccord face à ce projet-là. Puis qu'est-ce que les citoyens disaient? C'est pas d'être contre ce type d'établissement. Mais est-ce qu'on installe ça à côté d'une école? Puis est-ce qu'on fait ça tout près d'un parc fréquenté par des enfants? Puis là, les parents remarquent quoi? Bien, qu'il y a des seringues, qu'il y a des itinérants, santé mentale, agressivité. Il y en a qui lancent des roches. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et là, la réponse de la maison Labre en question à TVA hier, c'est de dire que la situation devrait s'améliorer. Sérieux, là, tu vas convaincre les citoyens de ça? C'est assez ordinaire. Un coup d'œil rapide sur la scène internationale. Jean-François Lépine sera avec nous. On va parler de la transition de pouvoir à Haïti, qui est un pays secoué, vous le savez, par les gangs armés, cette violence. La ville de Port-au-Prince, la capitale, qui est sous contrôle. Est-ce que vraiment il y a un changement politique qui peut s'exercer? C'est une bonne question. Pour ce qui est de Gaza, encore là, l'aide humanitaire est compliquée. Les Américains qui sont en train de construire une espèce de plateforme pour justement amener plus de nourriture, plus de médicaments à Gaza. Mais les autorités des Nations Unies répètent que c'est une situation de famine. Et toujours pas d'espoir de cessez-le-feu réel. Au contraire, les opérations militaires qui continuent. Puis je termine avec le même rappel, c'est-à-dire de voir ces manifestations dans les universités, que ce soit l'Université Columbia aux États-Unis, Yale par exemple, Harvard, les grandes universités, aussi en Californie, on le voit à Paris, Montréal. Donc ce mouvement anti-guerre de soutien aux Palestiniens, ce qui amène des affrontements avec la police. Je disais hier que ça rappelait les années 60, là, la fin des années 60, mai 68 en France. Bon, ben la guerre du Vietnam, il y a des similitudes avec beaucoup d'arrestations, puis on tente aussi d'évacuer des campus où les protestataires ont établi des espèces de campements.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Ce matin, nous recevons le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, qui a présenté hier les chiffres. Puis en même temps, c'est une occasion de voir un peu l'évolution du profil de cette entreprise. Monsieur Martel, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Arcand.
On comprend qu'il y a une amélioration des commandes, mais moins de revenus.
Oui.
Expliquez ça au bon peuple.
Oui, c'était notre résultat des premiers du premier trimestre. Alors, écoutez, tu sais, on est une compagnie qui a des longs temps de cycle. Alors, souvent, bon, les résultats d'un trimestre, c'est représentatif, mais en même temps, c'est mieux de regarder le tout sur un an. Fait qu'on a fait beaucoup de commandes. Donc, on a garni notre backlog. Notre carnet de commandes a augmenté de 700 millions de dollars. Fait qu'on a reçu beaucoup de commandes en donc ça, ça assure le futur. Mais on déclare les revenus quand on livre l'avion. Donc, ces avions-là qu'on a reçu les commandes, on va les livrer dans un an et demi. Mais on avait moins d'avions à livrer dans le premier trimestre. Puis on avait surtout un mix de produits différents. Mais ce que je dois vous dire, c'est que c'était exactement le plan. Donc, les marchés financiers, hier, vous avez vu, ont très bien réagi. L'action a monté au-delà de 8 % parce que je pense que depuis 3 ans, de trimestre après trimestre, on leur livre toujours ce qu'on dit. Et c'était prévu que ça soit comme ça dans le premier trimestre, qu'on aille moins de livraisons, donc moins de revenus. Et le reste de l'année, par contre, on a réitéré hier nos indicateurs pour le reste de l'année qu'on allait livrer les résultats. Fait qu'il faut se rappeler que Bombardier, on a eu une transformation majeure. En 2020, là, on a livré 200 millions de profits là, quand on regarde une des lignes qui s'appelle l'EBITDA. L'année passée, 1,2 milliard. Donc, c'est 6 fois plus. Puis cette année, on va encore augmenter à 1,3 et quelques. Alors, l'entreprise est en santé. Les choses vont bien. Notre population d'employés est passée de 13 000 à 18 000 dans les 4 dernières années. Le moral est bon. Les employés sont contents de ce qui se passe.
Vous avez changé le logo, l'image de Bombardier parce que, dites-vous, il y a encore des gens qui pensent que Bombardier fabrique des motoneiges. Puis ça, c'est vrai que les gens sont... Ouais. C'est dur de sortir l'image skidou Bombardier.
Ben absolument. Hein, ça date de 2003. Pourtant, tu sais que Bombardier a délesté la partie BRP qui va très bien puis qui est une belle organisation. Puis après ça, on était pendant plusieurs années à avoir bon les avions et les trains. On a vendu les trains. Aujourd'hui, on est une compagnie spécifiquement sur l'aviation. Ça faisait 20 ans que le logo avait pas été retouché. On s'est posé la question. Il fallait se donner la légitimité de le faire. Je pense qu'il fallait restabiliser l'entreprise, ce qu'on a réussi à faire depuis 4 ans. Et puis, c'est nos employés. J'attendais le signal. Nos employés sont fiers à nouveau de travailler chez Bombardier. On est une entreprise qui a un rayonnement international. Donc, les gens aussi à l'international mélangeaient encore tout ça. Fait qu'on a refait notre logo. Notre logo aujourd'hui représente, je sais pas si vous avez eu la chance de le voir, oui. Mais quelque chose qui va de l'avant. Ça ressemble à un avion, évidemment, parce qu'on fait des avions. Puis, tu sais, l'idée de l'engrenage qui était la marque de commerce de Bombardier depuis longtemps, ben, il y en a presque pas ou il y en a pas vraiment dans un avion. Alors, on devait avoir quelque chose qui était plus représentatif de ce que nous sommes devenus puisqu'on va être dans le futur.
Qui achète des avions d'affaires?
C'est une bonne question.
Vous le savez, là.
Oui, oui, oui. Tu sais, il y a toujours cette perception-là que les avions d'affaires, c'est, les stars d'Hollywood qui voyagent puis que c'est pour faire la party. Pas du tout. Moi, je peux vous dire que 99,5% des gens qui volent, c'est souvent des entrepreneurs qui ont des business qui sont à l'échelle planétaire, qui ont besoin d'être un matin à Hong Kong, puis le lendemain à Singapour, puis 3 jours plus tard, il faut qu'ils soient aux États-Unis, puis ils se promènent tout le temps. Ça serait impossible pour eux de faire ça avec les avions commerciaux, les délais, les retards. Puis tu sais, nos avions, dans le fond, ce que ça représente, c'est comme un espace de travail. On essaie toujours, nous, de représenter qu'ils se sentent soit à la maison ou soit dans leur truc, parce que des fois, ils vont voler 17 heures sur un de nos globales.
Mais est-ce que ce sont les individus, les entreprises, ou ce sont des compagnies qui, par la suite, vont les louer à ces gens d'affaires-là?
Okay. Il y a les deux. Hein? Ça peut être un entrepreneur qui est propriétaire d'une multinationale puis qui dit que moi, comme chairman, CEO, comme PDG, j'ai besoin de ça, puis mon équipe de direction, parce qu'on voyage beaucoup. Donc, c'est un outil de travail, vraiment, de productivité pour eux. Et il y a des flottes aussi. Tu sais, j'ai des gens, comme exemple, la compagnie de Warren Buffett, Berkshire, que vous connaissez. Il y a une compagnie qui s'appelle NetJet. Ils sont propriétaires de presque 1000 avions d'affaires. Hein, c'est une flotte, c'est une ligne aérienne d'avions d'affaires. Et eux louent à l'heure où on achète des parts. Il y a plusieurs formules. Et ça, on est vraiment dominant, nous, Bombardier, dans ce marché-là, à cause que ces gens-là qui sont des experts, qui sont comme des lignes aériennes, recherchent bon le confort des appareils, recherchent la fiabilité, recherchent des appareils qui sont performants, moins coûteux à opérer. Puis nous, ben, on représente beaucoup ça, tu sais, sur la scène internationale. Vous le savez que dans le fond, quand on regarde tout le marché des avions d'affaires ensemble, Bombardier, notre principal concurrent, Gulfstream, on est 75% des ventes. Okay, donc, on est le trois quarts ensemble du marché des avions d'affaires. Le reste du 25%, c'est Dassault, les Français, Embraer, les Brésiliens et Textron, les Américains.
Mais comment on fait pour concilier la lutte au changement climatique, par exemple, et ces avions privés? On a vu des pressions exercées en disant « Laissez l'avion de côté, prenez donc le train parce que la distance est relativement courte. »
Excellente question. Nous, là, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est l'aviation dans son ensemble. Toutes les lignes aériennes représentent à peu près 2% des émissions. Les avions d'affaires, c'est 0,04%. Donc, c'est peu, mais je vous accorde que c'est sûr que par individu, ben, c'est quand même beaucoup plus. Mais le portrait global est quand même une infime partie des émissions totales. Et je peux vous dire que notre industrie, puis si toutes les industries feraient la même chose, je pense qu'on aurait moins de problèmes, on a une historique de réduire les émissions. Si vous regardez les avions qu'on faisait dans les années 60, les avions aujourd'hui, elles émettent à peu près 50% moins de CO2, parce que les moteurs sont plus performants, les avions sont plus légers pour toutes sortes de raisons. Donc, nous, on a un plan, je regarde chez Bombardier, soit par les moteurs, mais entre autres, je sais pas si vous avez vu notre EcoJet, qui est un avion de démonstration. Présentement, c'est un drone qu'on vole secrètement au Canada, où la forme de l'avion est complètement repensée. Juste ça, ça va nous donner des gains de 20%. Fait qu'on est conscient du défi que on fait face. Puis nous, ben écoutez, presque 90% de notre budget en recherche et développement aujourd'hui chez Bombardier est investi justement pour réduire les émissions sur les avions qu'on va voler.
Les gens sont toujours curieux quand on parle d'avions d'affaires comme ça. Vous faites clé en main, j'imagine, si l'entrepreneur vous dit « je veux avoir tel type d'aménagement à l'intérieur, je veux du marbre ou je veux… »
Absolument.
Vous faites n'importe quoi.
Absolument.
Quel est l'avion le plus pété que vous avez fait?
Ah, on en a fait, puis je peux pas dévoiler les noms.
Je veux pas le nom, mais
moi,
je veux savoir qu'il y avait à
l'intérieur. J'ai vu de l'or dans une salle de bain.
De l'or, des
vrais shows. Fait qu'on a fait plusieurs choses, des designs impressionnants. Puis tu sais, il faut être fier de ça parce que… On a des gens, évidemment, il y a tout l'aspect technologique de nos avions. Puis je dis toujours, on est juste 5 pays sur la planète qui est capable de faire des avions. Puis on a ce savoir-là chez nous, au Québec et au Canada, via surtout Bombardier, de designer et fabriquer. Mais il y a toute la partie que je vous dirais, on a des artistes chez nous aussi. Je sais pas, c'est pas connu, mais on est le plus gros employeur d'ébénistes au Québec. Parce qu'on fabrique des meubles qui vont dans les avions qu'on fait. Et ces meubles-là sont faits sur mesure. Hein. Les gens, bon, on a des 4 sections dans l'avion. Il y en a qui disent, moi, ça m'intéresse pas d'avoir une chambre à coucher. Mais c'est sûr que la chambre à coucher, quand les avions volent 17 heures, ça peut être utile. Les gens se reposent, ils arrivent là-bas, ils atterrissent, sont prêts à aller travailler ou sont prêts à aller dans leur rencontre. Donc, on fait vraiment du sur-mesure, avion par avion.
Il y a un autre volet. La dernière fois que vous êtes venu, il y avait ce litige avec le gouvernement fédéral pour un contrat militaire qui a été octroyé sans appel d'offres à Boeing.
Oui.
Vous avez en même temps décroché un contrat du côté américain. Vous avez dit, on n'a pas l'intention de contester, d'aller devant les tribunaux parce qu'on n'a pas eu le contrat au Canada ou parce qu'il n'y a même pas eu d'appel d'offres.
Ouais.
Pourquoi vous avez mis de côté cette option-là d'aller revendiquer devant le tribunal?
Écoutez, on avait des, je pense, un cas très solide. On aurait pu avoir des chances. Mais en même temps aussi, vous le savez, au Canada, ça prend des mois et des années souvent avant d'avoir des décisions. On voulait pas non plus... que nos militaires, tu sais, soient pris dans le milieu de ça, puis que dans 5 ans on décide d'octroyer un contrat, puis là les avions, tu sais, on a déjà vu ça dans le passé, là, des délais qu'ils en ont besoin dans 4-5 ans, puis finalement ça prend 15. Fait qu'on s'est dit, ben écoute, à long terme, on veut préserver notre relation avec le gouvernement et la défense surtout, donc on va pas interjecter. Écoutez, c'était sûr qu'on était déçus, hein, parce que c'est chez nous, puis on était capable de le faire. Puis on gagne aux États-Unis.
Qu'est-ce que vous faites pour les Américains? C'est quoi le rôle de l'avion Bombardier pour l'armée américaine?
C'est une bonne question. On a plusieurs contrats avec l'armée américaine. On en fait un aussi pour l'armée allemande présentement. C'est des avions de surveillance surtout et de télécommunication. Donc, c'est des avions qui volent à... Tu sais, nos avions ont la capacité de voler entre 40 et 50 000 pieds, ce qui est très unique. Et on est capable, avec des radars, avec des systèmes extrêmement sophistiqués, de faire des communications à longue distance. Exemple, si quelqu'un nous lancerait un missile dessus... on serait capable de le voir venir beaucoup, beaucoup plus tôt avec nos avions puis la performance des équipements qu'on met à l'intérieur. Fait que nous, ce qu'on fait, Bombardier, c'est qu'on utilise les plateformes qui existent déjà pour nos avions d'affaires et on travaille avec des militaires pour modifier puis ce qu'on appelle des mission house, là, des maisons qui vont nous fournir les équipements de télécom, radar. Souvent, ça modifie la forme de l'avion. Donc, nous, on va avoir nos ingénieurs qui vont contribuer à modifier la forme de l'avion pour qu'elle vole toujours aux mêmes altitudes, même performance et tout. Alors, c'est ça qu'on fait. C'est pas des équipements. C'est surtout des équipements qui font faire de la surveillance. On a des avions ambulances aussi, par exemple, pour être capable.
Avez-vous des avions sur des théâtres de combat actuellement? Je pense à Israël, l'Ukraine.
Absolument.
Il y a des bombardiers qui sont là.
On a deux Challenger qui volent en Ukraine depuis le début de la guerre, qui font de la surveillance des frontières. D'ailleurs, il y a une photo célèbre où il y a un avion de chasse russe qui vient juste escorter l'avion qui appartient aux Américains que nous, on a fabriqué. On en a partout. On en a eu en Afghanistan pendant des années. Il y en a toujours qui volent dans les pays arabes.
Je vous amène sur le volet commercial.
Ouais.
Je comprends que c'est pas votre terrain, là, mais on sait que la demande en termes d'avions commerciaux va augmenter. On sait que de plus en plus de gens vont voyager. Puis on a vu une série d'incidents qui ont un peu, créé une incertitude, une inquiétude là,
ouais, ouais.
Chez les passagers, de voir des morceaux qui se détachent en plein vol. Puis bon, là, je comprends que c'est le cauchemar d'un fabricant d'avions que son appareil soit impliqué dans un accident, mais dans le cas de Boeing, on a mis en lumière des lacunes dans l'entretien, des carences assez importantes aussi dans même la fabrication avec des mises à pied dans le passé. C'est quoi l'état de santé de l'industrie aéronautique?
Ouais. C'est une excellente question. Puis moi, ça m'a beaucoup préoccupé hein, parce qu'on est une industrie où jusqu'à la fin, on fait souvent affaire avec les mêmes fournisseurs et tout. Donc, c'est pas bon pour l'image de l'industrie. Quand ces événements-là sont arrivés, moi, je suis l'ancien vice-président de la qualité puis des usines à Bombardier à une certaine époque. Alors, j'ai retourné immédiatement me rassurer avec mon équipe qu'on faisait toujours les choses de la bonne façon. Et ça, je peux vous dire qu'on les fait de la bonne façon. Il y a des choses qui sont un peu incompréhensibles pour quelqu'un comme moi qui vient du milieu de l'industrie, qui sont arrivés chez Boeing. Fait que je pense qu'eux ont du travail à faire sur la rigueur de leur système.
Ben, quand on dit qu'il manque des boulons puis que l'entretien se fait un peu bizarre aussi.
Je verrais pas comment ça pourrait arriver chez nous. Tu sais, l'erreur humaine est toujours possible, mais dans le milieu de l'aéronautique, il y a souvent un vérificateur du vérificateur pour s'assurer. On peut pas décider à n'importe quel moment de modifier une procédure d'assemblage sans qu'il y ait un ingénieur qui l'autorise ou qu'il y ait quelqu'un du système de qualité qui vient vérifier le travail qui a été fait. Ça ne peut pas être n'importe qui décide « Ah, ben là, je vais enlever cette pièce-là, puis après ça, je vais la réinstaller de certaines façons. » Donc, c'est un système extrêmement rigoureux que nous, on respecte à la lettre.
Est-ce que vous prenez des vols commerciaux ou vous êtes toujours dans un avion de Bombardier?
À l'occasion, mais presque tout le temps avec des vols de Bombardier, nos avions, parce que je dois présenter nos produits, aller voir nos clients un peu partout sur la planète qui achètent nos avions puis qui créent des emplois ici à la
fin. Est-ce que vous l'avez fait aménager de façon particulière?
Non, en fait, c'est notre avion de démonstration.
Okay.
Fait que c'est nous, je participe à choisir les trucs, mais on essaie de prendre quelque chose qui va être d'un goût général.
Monsieur Martel, merci d'être venu ce matin.
C'est gentil, merci beaucoup.
Éric Martel est le président et chef de la direction de Bombardier.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
On commence avec le secteur santé ce matin. Le Devoir nous apprend que l'Institut de la pertinence des actes médicaux, ce qu'on appelle l'IPAM, a permis de dégager 400 millions de dollars dans la rémunération des médecins. Donc, les médecins spécialistes disent « on a 400 millions ». Ça sert à quoi? Ben, entre autres, l'objectif de réduire la liste d'attente en chirurgie, pouvoir notamment payer du temps supplémentaire aux gens qui le veulent. Sur les 400 millions, Québec en a dépensé 60. On peut bien dire que c'est beau, là, 60 millions. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'en dépenser plus? Le vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec est avec nous, Dr Serge Legault. Dr Legault, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, expliquez aux gens comment vous avez récupéré cette somme-là là, de 400 millions.
Ben, la dernière entente, donc, si on peut dire une convention collective avec les médecins spécialistes, datait de 2019. Si je me trompe, et puis lorsque le gouvernement a changé, lorsque le gouvernement Legault a pris le pouvoir, vous vous souvenez que il y avait une promesse là d'essayer de diminuer la rémunération des spécialistes parce qu'ils trouvaient que la comparaison avec les autres provinces désavantageait les Québécois. De là est née l'IPAM, la réouverture de l'entente de l'accord cadre. L'IPAM, c'est exact, comme vous avez dit, l'Institut de pertinence des actes médicaux, où on remet au ministère 1,6 milliard de la masse de la masse totale des spécialistes pour augmenter l'accès aux services spécialisés. Donc, cet argent-là ne doit pas servir à la rémunération médicale, elle doit servir à soutenir les équipes qui vont aider les professionnels de toutes sortes là, à accomplir leurs besoins à l'hôpital. Donc, promouvoir l'accès, augmenter les services en salle d'opération, etc., etc.
OK. Ça, ça a permis de dégager 400 millions. 60 ont été dépensés. Pourquoi pas plus?
Permettez-moi de dire, je ne crois pas que 60 millions ont été dépensés. Je pense que les 60 millions ont été prévus, distribués dans les hôpitaux pour promouvoir le plan de rattrapage en chirurgie. Mais si on avait dépensé 60 millions, M. Arcand, on aurait vu un rehaussement des activités chirurgicales, soit en fin de programme, ou dans les heures défavorables, ou dans les fins de semaine. C'est pas vraiment le cas. Est-ce que je suis absolument certain à 100% de mes propos? Non. Est-ce que l'argent est provisionné? Certainement. Mais est-ce qu'elle est dépensée? C'est une autre question, là.
OK, mais mettons que l'argent existe. Pourquoi elle n'est pas... OK, mais pourquoi elle n'est pas dépensée?
Bon, je pense qu'il y a eu un problème avec la diffusion du plan de rattrapage. Je vous ferai remarquer que là, on est presque au premier anniversaire de l'annonce conjointe entre le Dr Oliva et M. Dubé. Alors, on était très enthousiastes, là. Puis là, je veux pas refaire de la pédagogie, finir les salles, ne pas annuler les derniers cas, prévoir des heures défavorables pour identifier des équipes pour opérer les patients. Ça, là, c'est un message qui part du haut de la pyramide et qui doit diffuser jusqu'à la base. Manifestement, ce message-là n'a pas été assez diffusé. Donc, il y a des hôpitaux qui ont une meilleure performance. Il y a des hôpitaux, je vous dirais, qui ignorent l'existence du plan. Donc,
Attendez un peu. Comment un hôpital, comment un PDG d'un SUS peut ignorer l'existence de ce plan?
Ben, ignorer, c'est peut-être un mauvais terme, là. D'avoir une commande de faire parce qu'il y a des cibles au plan de rattrapage. Une première cible manquée, là, il y a pas longtemps, au mois de mars, là. On était censé être à 7 500 puis 2 500 à la fin de l'année. Les PDG ont plusieurs choses à faire en même temps, là. Tu sais, de comprendre le plan, de communiquer le plan aux équipes locales. Des fois, ça se fait facilement, des fois, ça se fait plus difficilement. Il y a des gens qui pensent que le plan est voué à l'échec, donc qui ne donnent pas beaucoup d'importance. Il y en a d'autres qui y croient plus, là.
OK. Le temps qu'on appelle un chat un chat, se peut-il que dans certains hôpitaux, on trouve ça bien compliqué de dire faut offrir du temps supplémentaire, faut ouvrir le soir, faut ouvrir la fin de semaine, qu'on préfère ne pas amorcer quelque chose qui viendrait alourdir la tâche?
Ben, tu sais, les équipes sont déjà pas mal étirées, donc il y a beaucoup de résistance à demander aux infirmières, aux inhalos, aux perfusionnistes de dire restez un peu plus, venez le soir, venez la fin de semaine. Le plan, c'est sur une base volontaire.
Oui, mais c'est ça, mais s'il y a des gens qui veulent le faire.
Justement, mais si on leur demande pas de le faire parce qu'on a peur qu'ils disent non, ben si on leur demande pas, ils le feront pas.
Entre vous et moi, là, il y a des gens qui attendent, puis ça, vous le savez, là, puis le temps d'attente peut, dans certains cas, être de plusieurs mois, puis même dans certains cas, on parle d'années, pour des cas dits moins urgents. Mais c'est comme si on était encore dans un système où tu dis, OK, les médecins, vous mettez 400 millions. Puis là, j'apprends que dans tel hôpital, les blocs opératoires sont fermés parce qu'on n'a pas le personnel, il manque d'inhalo. J'apprends également que là, peut-être dans un hôpital, là, on n'ira pas leur proposer parce que c'est sûr qu'ils vont dire non. Est-ce que c'est l'agence de santé qui va tout régler ça, là?
Permettez-moi d'émettre certains doutes. Okay. J'irai pas plus loin, là, M. Arcand. L'agence de santé, avec tout le bon vouloir, puis là, on vit présentement, là, le rebrassage des professionnels au ministère de la Santé. Je vais-tu avoir un job? Je vais-tu avoir la même paye? Est-ce que je vais avoir le même syndicat? Etc., etc. Là, c'est en train de se passer. Donc, ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est de s'assurer que la couche administrative qu'on rajoute avec Santé Québec va servir à quelque chose.
OK. Un autre exemple très concret. Le ministre nous a dit... Pour justement faire en sorte que les gens soient opérés plus vite, on fait des ententes. Puis ça a commencé avec la pandémie, puis même avant, là, mais ce corridor qui permet d'envoyer des patients d'un hôpital vers une clinique privée, un centre privé, opéré par un médecin au public, la facture ramassée par le gouvernement. Est-ce que ces corridors-là, à votre connaissance, fonctionnent bien? Est-ce qu'on pourrait en faire plus? Est-ce qu'on pourrait opérer plus de gens? C'est quoi votre évaluation?
Ben, j'entends beaucoup de critiques sur la performance des CMS. Là. Il s'est opéré depuis la fin de la pandémie plus de 100 000 cas en CMS. Si les CMS n'avaient pas été là, ce serait 100 000 cas de plus sur la liste d'attente au public. Donc, je pense qu'il y a une bonne collaboration entre les hôpitaux et les CMS à travers ce qu'on appelle les ententes 108, qui sont les contrats là, qui prévoient la rémunération de tout le monde. Après un certain temps, lorsque les blocs opératoires ouvrent de plus en plus au public, des fois, c'est difficile d'aller chercher de la main-d'œuvre pour aller opérer ailleurs. Ça, c'est un premier défi. Il y a des belles histoires là, de CMS qui fonctionnent pour augmenter l'offre. Je vous donne juste un exemple très rapide d'une clinique qui fait de la chirurgie pédiatrique, des myringotomies, donc mettre des tubes dans les oreilles. Lorsque GM a eu le contrat de Sainte-Justine, il y avait plus de 300 patients sur la liste d'attente. Maintenant, il y a à peu près une semaine ou deux semaines d'attente chez AGM. Donc, c'est une belle collaboration entre le public et le privé. Il y a des enjeux divers qui font que ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Mais à la fin de l'exercice, à date, les CMS ont apporté quelque chose de significatif. On peut pas opérer tout le monde en CMS, mais ceux qui sont opérés là, d'après moi, vivent une expérience qui est tout à fait correcte.
Peut-tu n'opérer plus?
Ben, on peut n'opérer plus dans la mesure où les ressources sont disponibles. T'sais. Puis c'est toujours l'enjeu, là, déshabiller Paul pour habiller Jean.
Non, ça je comprends, mais moi, des médecins qui me disent « Je peux pas opérer dans mon hôpital, mais aller opérer ailleurs », est-ce qu'il y a des médecins qui se tournent les pouces actuellement qui pourraient faire des chirurgies si on rendait ça moins, en tout cas plus fluide, disons?
Ben, si on pouvait, puis je suis pas un expert contractuel, si on pouvait simplifier les contrats pour que la mobilité de la main-d'œuvre médicale soit facilitée, surtout dans des grandes régions comme Montréal, où il y a plusieurs CMS, certainement.
Okay.
Mais là, le détail précis de la chose, là, je l'ignore.
Je veux vous entendre sur l'Outaouais. On a parlé cette semaine avec un urgentologue là, qui est là dans la région depuis une trentaine d'années, là. Puis la compétition avec l'Ontario fait que du personnel en imagerie, donc des technologues qui regardent les images médicales s'en vont travailler pour 30 000 $ de plus par année en Ontario. Il nous dit que l'urgence est à découvert puis que les patients vont payer le prix. Est-ce que, un, c'est vrai, puis deux, c'est quoi le plan de match?
Ben, j'ai entendu l'entrevue avec Dr. Bonneville, puis je pense qu'il a été très éloquent sur les misères que vivent présentement les soignants en Ottawa, puis l'attractivité à travers le salaire, peut-être les conditions de pratique, je l'ignore, là, des hôpitaux comme Montfort, Ottawa, pour les technologues comme les médecins. C'est un défi majeur à relever pour le système. Il faut qu'il se passe quelque chose en Ottawa. Puis lorsque j'entends dire bientôt, il y a des patients qui vont en payer la note, là, pas par une attente accrue en chirurgie, ça aussi ça existe en Ottawa, mais de leur vie, là, un patient qui peut mourir à cause d'un délai diagnostique parce que le scan est brisé ou, comme c'est arrivé récemment, dans un transport pour avoir le scan pour un AVC, je connais assez le ministre et son cabinet pour dire que lorsqu'on parle là, de mort probable ou de danger de mort, ces gens-là écoutent puis veulent participer à la solution. Maintenant, il y a un problème d'attractivité à cause du salaire. Il y a des enjeux intersyndicaux dont je ne veux pas me mêler. Est-ce qu'on attire les gens avec des primes? Est-ce qu'on verse des montants additionnels? Comment on fait pour que le milieu syndical soit d'accord avec ces propositions-là? Il n'y a pas juste l'Outaouais là, qui a des problèmes. Toutes les régions ont des enjeux locaux. Il faut pas favoriser un par rapport à l'autre. C'est un sérieux problème, là, M. Arcan.
Mais si vous me dites que le ministre est sensible, est-ce que la machine est aussi sensible? Ou ben non, on est encore dans l'univers de ce que la machine fait. C'est pas nécessairement ce que le ministre veut. Il finit par l'apprendre quand ça remonte. On est-tu un peu dans ça aussi, là?
Ben, la machine, M. Arcan, c'est une grosse machine.
Non, je le sais, mais...
On appelle ça le paquebot, le mammouth, whatever, là. Puis là, je deal avec ces gens-là, de grand cœur, là.
Ah oui, c'est tout du bon
jours.
Monde.
Mais c'est dur de faire changer une affaire au Québec là, à travers le ministère. Le ministre est de bonne foi, j'en suis absolument persuadé. Puis il est tout à fait inquiet de la situation qui se passe à Gatineau. Je ne veux pas parler pour lui, mais je suis sûr qu'il vous dira la même chose. Mais entre une recommandation du ministre, la transmettre au mammouth, puis pour que la base s'active à trouver une solution rapide, c'est deux choses différentes.
Comme m'a déjà dit un prof à l'université, tout le monde est de bonne foi, mais la bonne foi, ça déplace pas grand-chose.
Ben, moi, je dis souvent en santé, quand il y a un problème, c'est de la faute à personne, puis c'est de la faute à tout le monde en même temps.
On va se laisser, Dr. Legault, sur ces notes philosophiques. Merci d'avoir été là.
Allez.
Au revoir. Dr. Serge Legault est le vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, on va parler de ce grand débat qui secoue le Québec depuis quelques jours, 48 heures, dirons-nous, concernant le transport collectif. Tout ça, évidemment, a pris naissance lors de l'étude des crédits du ministère des Transports et de la Mobilité durable, quand la ministre a dit, et je la cite, « Gérer le transport collectif et les sociétés de transport, ce n'est pas une mission de l'État. » Elle est avec nous ce matin. Geneviève Guilbeault, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, est-ce que je vous ai bien cité?
Bien, tout à fait. Gérer les sociétés de transport n'est pas une mission de l'État. C'est un fait et je le maintiens. Gérer les opérations du quotidien, les lignes d'autobus, négocier les conventions collectives, prendre des décisions de gestion, ça relève des gestionnaires, des conseils d'administration des sociétés de transport. C'est un fait.
OK. Gérer le transport collectif.
Bien, soutenir le transport collectif. C'est la nuance que j'ai faite hier. Gérer les opérations des sociétés de transport, c'est pas une responsabilité de l'État. Et si je voulais me mêler de cette gestion-là, je suis certaine que les mêmes élus qui, en ce moment, disent que c'est mon travail, me diraient de pas m'en mêler. Alors ça, je pense que c'est clair.
Okay,
mais soutenir le transport collectif, à l'évidence, oui, c'est une mission de l'État. C'est pour ça qu'on n'a jamais mis autant d'argent, d'ailleurs, à la fois dans le développement et dans le soutien aux opérations.
OK. Je pense pas qu'on demande à Québec de gérer la société de transport de Montréal. Mais le gouvernement du Québec a créé en 2017, j'ai le communiqué devant moi, là, je vais vous le lire. Le gouvernement du Québec souligne l'instauration de la nouvelle gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine. Quand on parle de gouvernance, dans mon livre, ça veut dire gérer le transport collectif. Et on a mis sur pied cette fameuse autorité, si on veut, du transport en commun, pour harmoniser les relations avec les différentes sociétés de transport. L'Autorité régionale de transport métropolitain. C'est une patente de Québec créée pour gérer.
Oui, c'est ça. C'est la RTM créée par les libéraux. Et donc, c'est ça. Mais effectivement, eux ont un mandat, entre autres, de coordination, de planification et de tarification. Donc, eux, c'est leur travail de parler avec les élus de la CMM, de gérer, si on veut, la facturation, la gestion des services globalement. Mais c'est pas la mission de la ministre des Transports de faire ça.
Non, mais c'est créé par le ministre.
C'est dévolu à la RTM. Oui, mais tout à fait. Mais eux autres, ils ont un travail à faire. Puis si vous écoutez, je sais pas si quelqu'un va avoir le courage d'écouter les 4h30 de crédit que j'ai fait avant hier, mais à un moment donné, je le disais, et eux, ils étaient présents dans la salle de la RTM. J'ai dit, la RTM a un travail à faire. Là, il y a des problèmes de déficit récurrent. Il faut trouver des solutions à ça. Et eux, moi, ça fait 2-3 réunions que je fais, entre autres, avec la RTM, où je vois passer des listes de solutions, des listes de pistes de réflexion. Je dis, à un moment donné, il va falloir peut-être arrêter de faire des réunions puis les mettre en place, ces solutions-là, puis que ça donne des économies à la source, la clé de ça.
On va se parler franchement. Ce que vous me dites, c'est que l'autorité actuelle, là, c'est pas efficace.
Bien, ce que je dis, c'est qu'ils ont un mandat, vous venez de le dire, ils existent.
OK, donc, mais le mandat est là. Est-ce qu'ils sont efficaces ou pas?
Bien, je dirais qu'on est rendu à une étape où il faudrait qu'ils mettent en place les idées qui ont été discutées.
Donc, ils ne sont pas efficaces.
Et c'est à eux de... Mais c'est pas ça que je dis, M. Arcan.
Non, mais c'est ça que vous dites quand même.
Ça fait un an et demi que je suis là. J'ai vu plus qu'une réunion, plus qu'un document, plus qu'un PowerPoint avec des solutions, des idées de solutions. Et là, je pense qu'il faudrait poser des gestes. Mais il faut voir comment ça fonctionne. La RTM, là, doit faire approuver ce qu'il fait par son conseil d'administration. Et sur le conseil d'administration de la RTM, l'exécutif de la CMM y siège. Donc, les mêmes élus, la mairesse de Montréal, la mairesse de Longueuil, le maire de Laval, la mairesse de Mercier, le maire de Deux-Montagnes, qui sont donc les mêmes interlocuteurs avec qui on a cette discussion-là aussi en parallèle sur le financement du transport collectif. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a beau se renvoyer tous la balle, Il faut tous s'asseoir ensemble puis trouver une solution de fond, parce que penser de refiler une facture à la fin de chaque année, tu sais, moi je suis pas consultée du tout, moi, dans les décisions qui se prennent au quotidien. On me refile une facture à la fin de l'année. Il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Faut trouver une solution ensemble.
Ce matin, vous parlez à des payeurs de taxes. Ce que le payeur de taxes entend, là, c'est que le gouvernement a créé une patente qui s'appelle l'autorité régionale, qui est pas efficace. Vous voulez pas me le dire, mais ce que vous dites, ça revient au même, là. C'est une patente pas efficace qui fait des PowerPoint, qui présente ça à un paquet de monde qui prennent pas de décision. C'est ça que vous dites aux payeurs de taxes ce matin, là.
C'est pas ça que je dis.
Ben oui.
Parce que c'est compliqué. Je dis que les mêmes gens sont tout au sein de ces mêmes structures-là, et c'est ces gens-là qui se plaignent en ce moment d'un problème et qui veulent qu'on trouve des solutions. Donc, toutes les bonnes personnes sont actuellement autour des mêmes tables. Alors, il faut la trouver, la solution.
Le maire de Laval, il dit qu'il y a trop de monde autour des tables.
Ben, il a peut-être raison, mais il y a les mêmes personnes autour des mêmes tables. T'sais, le maire de Laval, quand il fait une lettre ouverte dans le journal, après ça, il va siéger à l'exécutif de la CMM, après ça, il va siéger au CA de la RTM, après ça, on se parle, lui et moi, directement. Ça fait quatre tribunes différentes, ça, avec la même personne sur les mêmes tribunes. Okay. C'est pour ça que moi, je vais les rencontrer. Bref, là, parce que vous avez raison, puis les payeurs de taxes qui nous écoutent, c'est tous les mêmes qui payent la même chose, en passant.
Parce que...
Alors, tu sais...
Non, ben, c'est pas tout le monde qui paye la même chose.
Quand je vais les rencontrer, moi...
C'est pas tout le monde qui paye la même chose, parce que les maires, ici, commencent à nous expliquer qu'ils veulent augmenter la taxe sur l'immatriculation, peut-être jusqu'à 200 $. Ils ont le pouvoir, vous leur avez donné, puis là, ils ont l'intention de s'en servir.
Mais ça, c'est des décisions qui appartiennent aux municipalités.
Je comprends, mais ils ont le pouvoir de le faire.
Je suis ministre des... Ben oui, ils ont le pouvoir de le faire, mais en même temps, s'ils offrent un service de transport collectif, s'ils font le choix de vouloir offrir un transport collectif sur un certain territoire, c'est normal que ça vienne avec un financement en conséquence par rapport à un territoire où ce service-là n'est pas offert.
On va essayer de rendre ça encore plus simple pour les gens. Le déficit, la facture, le déficit du transport en commun, c'est combien?
Bien là, les derniers chiffres qu'on a eus, dans justement les fameux PowerPoint qui circulent, on serait autour de 500 millions à la RTM, seulement donc pour la CMM.
OK. Avez-vous l'intention d'éponger le déficit?
Il n'est pas réaliste que j'éponge 500 millions de dollars alors qu'on vient de déposer un budget avec 11 milliards de déficit, parce que nous, on a aussi des responsabilités en santé, en éducation. On a fait le choix d'investir massivement en santé puis en éducation. Et on n'a pas le luxe, nous, de refiler nos déficits ailleurs. C'est pour ça qu'il faut trouver une solution ensemble, parce que penser que toute l'année, ces gens-là prennent des décisions pour leur société de transport, gèrent leurs affaires, puis à la fin de l'année, on envoie une facture au gouvernement, le gouvernement la paie, puis l'année d'après, c'est la même chose. Ça peut pas fonctionner comme ça. Et en plus, parce que moi, souvent, on me dit, tu sais, c'est important, puis ça prend une vision et tout ça. Je pense que le rôle du ministre des Transports, c'est d'avoir justement cette vision-là, puis de dire, au-delà des transferts de factures à la fin de chaque année, puis après ça, on n'entend plus parler jusqu'à la prochaine facture, il faut s'assurer, puis c'est ça que j'entends, moi, beaucoup des élus, puis je suis d'accord avec eux, il faut s'assurer de développer l'offre de transport collectif pour générer plus d'achalandage, donc plus de gens qui l'utilisent, donc plus de revenus.
Parfait.
Et
non, mais j'ai compris.
On n'a jamais autant investi dans le développement du transport collectif.
OK. Donc, vous ne paierez pas le déficit au complet, puis vous dites, en gros, on va parler, on va discuter, mais on va voir comment on peut partager la facture ou comment ils vont prendre la facture au complet, là. C'est ça que vous me dites?
À chaque année, on les soutient. L'an dernier, je rappelle qu'on a payé 70 % de leur déficit.
Okay.
C'est énorme. 70 % de leur déficit. Alors, je vais les rencontrer bientôt. Il y avait toute la question aussi de se rencontrer à la fin de l'année qui amenait, je dirais, une couche de drame supplémentaire parce qu'eux autres doivent boucler leur budget. Alors, cette année, on va s'y prendre tôt. Dans les prochaines semaines, je vais les rencontrer. On va essayer de trouver une solution pour cette année. Mais c'est ça. Ça peut pas être comme ça année après année. C'est pour ça que moi, en plus, je veux un plan quinquennal. Je veux qu'on ait une entente prévisible pour les prochaines années. Ça va être beaucoup mieux pour eux. Ça va être beaucoup mieux pour nous. Mais au-delà de ça, moi, ma mission et ma vision et mon rôle de ministre des Transports, c'est d'avoir une vision puis une planification puis un développement à l'échelle nationale. C'est de prendre le contrôle finalement du destin du transport collectif au Québec et de faire en sorte qu'on est capable de livrer des projets. Et là, vous savez que je travaille sur mon agence pour compléter la toile du transport collectif et avoir plus de monde qui le prenne, plus de revenus
qui
viennent à bout de ces problèmes-là.
Mais Mme Guilbeault, là, je comprends que c'est le mot magique, là, agence, là, mais moi, je mets les factures de côté, là, juste pour les fins de la discussion. Vous me dites, j'ai une vision. Le seul membre de votre gouvernement de qui j'entends une vision, c'est Fitzgibbon, qui dit, je veux moins de chars, Je veux plus de transport collectif. Je veux faire en sorte aussi que l'électrification des transports se réalise. C'est quoi la vision du transport au Québec de Geneviève Guilbeault?
Bien, on dit exactement la même chose. D'ailleurs, lui et moi parlons souvent de ces dossiers-là. Vous demanderez à mon collègue Fitzgibbon ce qu'il pense de mon projet d'agence. C'est un des plus grands supporters de ce que je suis en train de préparer.
Mais c'est quoi votre vision? Je veux vous l'entendre me le dire.
Mais ma vision, M. Arcan, c'est qu'on soit capable de livrer des projets. Quand Fitzgibbon va dans les chambres de commerce de l'Est de Montréal, quand moi je vais à la chambre de commerce de l'Est de Montréal, eux, ça fait des années qu'ils attendent un projet. On dit parfait un projet. Là, le projet, il était à la caisse de dépôt. Après ça, finalement, puis ça, c'était pas moi.
Mais est-ce que votre vision, c'est moins. Est-ce que votre vision, c'est moins d'auto?
Mais c'est plus de transport collectif. Évidemment, par conséquent, il va y avoir moins d'auto. Mais. Okay, mais une fois qu'on a dit ça, là, moi, je peux me promener partout et dire, ouais, moi aussi, je veux plus de transport collectif. OK, parfait. Comment tu vas faire? On n'est pas capable, M. Arcan, de livrer des projets. Ça fait combien d'années qu'on parle du projet dans l'Est de Montréal? Ça fait combien d'années qu'on parle du tramway à Québec? Ça fait combien d'années qu'ils attendent sur la rive sud de Montréal, Mme Fournier, avec qui on travaille très bien aussi? Là, la caisse s'est retirée du REM de la rive sud. La réalité, là, c'est que le gouvernement n'est pas capable en ce moment de livrer des projets de transport collectif d'envergure. Le PQ, en 2012, a essayé de créer une agence, n'a pas réussi. Les libéraux, en 2015, se sont aperçus de la même chose que ce que je suis en train de vous dire. Ils ont créé la CDPQ Infra pour envoyer le REM là-bas parce qu'ils savaient que le gouvernement ne serait pas capable de le faire. Donc là, en ce moment, on n'a pas le contrôle du destin de son. Ben, tributaire de la caisse, des bureaux de projets un peu partout. Il faut prendre le contrôle du destin du transport collectif pour faire ce que Fitzgibbon et moi on dit, là, okay. C'est-à-dire avoir des projets. Il faut être capable de les livrer et c'est là-dessus que je travaille.
Vous avez scrappé le troisième lien puis vous avez envoyé ça dans le cours de la caisse de dépôt.
Vous voulez dire le tramway?
Non, le troisième lien. C'est la caisse de dépôt qui est en train de réfléchir, entre autres, là, sur comment on va aménager un troisième lien.
Bien, c'est pour la vision de mobilité au complet. Donc, il y a un projet structurant et il y a améliorer la mobilité entre les deux rives. C'est précisément le mandat.
Bien, c'est ça, le lien entre les deux rives. C'est le troisième lien. On scrape le troisième lien, puis on dit à la caisse de dépôt, voulez-vous, s'il vous plaît, nous trouver une réponse, là, puis avec des hypothèses. Puis ils vont le faire au mois de juin, je pense.
C'est ça, une proposition de mobilité globale pour la communauté métropolitaine de Québec, mais la Caisse de dépôt a une crédibilité puis une expertise.
Que le ministère n'a pas.
Gouvernement. Exactement.
Okay.
Donc l'agence.
Le gouvernement n'est pas crédible, mais la Caisse l'est. C'est ça que vous me dites. Le gouvernement n'est pas crédible en matière de transport, mais la Caisse de dépôt l'est.
Ben, quand je regarde dans les dernières années, à part le métro, il y a 57 ans, qu'est-ce qui a été livré? Ou qui est en train, du moins, d'être livré comme gros projet de transport collectif? C'est le REM.
Ouais.
Et qui a fait le REM? À quel coût?
Okay.
C'est 8 milliards pour 67 kilomètres. Hey. Regardez quel genre de projet on fait, le coût au kilomètre. On est quand même dans un comparatif avantageux par rapport à ce qu'on aurait aujourd'hui comme projet, probablement.
Madame Guilbeault, j'ai envie de vous dire, on est au Québec, c'est là, comme le dit la chanson, là. On n'est pas capable de rien faire. On est une gang de pas bons quand vient le temps de développer des projets. Puis depuis que je vous parle depuis tantôt, là, c'est ce que je pense, puis je le pense de plus en plus. On n'est pas capable de faire on jase, on est tous du bon monde. Tantôt, je parlais avec le docteur Legault de la Fédération des médecins spécialistes. Tout le monde est de bonne foi, tout le monde est gentil. Il m'a visité tout le monde, il n'y a rien qui avance. On parle, on fait des PowerPoint, puis les projets n'aboutissent pas.
Mais si vous saviez, moi, ça fait un an et demi que je suis dans ce ministère-là. Là. Ça fait un an et demi que je dis, peut-être dans des mots un peu plus... un peu plus poncé, ce que vous venez de dire là. Mais surtout, une fois qu'on a fait ce constat-là, on peut pas se résigner à juste répéter ça, puis c'est donc plate, on fait rien. C'est pour ça qu'il faut faire différemment. Puis l'agence, là, je sais que vous êtes pas un fan de structure, puis moi non plus, d'ailleurs, c'est pas juste une nouvelle patente. Je veux la faire d'une manière où ça va être différent. Je veux pas recréer un nouveau ministère dans un nouveau bureau qui va faire la même chose que ce qu'on fait là.
Avez-vous un tableau de bord?
C'est pour ça que je le fais avec mes collègues, parce que j'ai besoin aussi d'autres assouplissements pour pouvoir travailler mieux, être plus attractif sur les marchés, avoir plus de gens intéressés à travailler avec nous, plus de soumissionnaires, donc des projets à moindre coût, livrés plus rapidement, parce que sinon, on ne viendra jamais à bout. Puis le prochain ministre des Transports, après moi, vous allez l'avoir en entrevue, puis l'autre d'après en entrevue qui va vous dire la même chose, ben là, on a un comité qui travaille sur un projet, puis un jour, peut-être qu'on fera quelque chose. Si on veut le faire, on va des doigts capables de le faire.
On est au Québec, c'est. attendez, vous étiez en train de parler, vous l'avez pas.
Des gens qui veulent changer les choses.
Oui, vous l'aviez pas entendu comme il faut, Richard, remets-moi ça. On est au Québec, c'est, Mme Guilbeault.
Bon, ben là, pensez à la prochaine chanson. Quand je vais déposer mon projet, puis peut-être que vous allez me réinviter en entrevue, pensez à la chanson, là. qu'on va mettre pour dire enfin on pose un geste significatif.
À date, je vais toujours mettre celle-là, à moins que vous me fassiez la démonstration du contraire. Mais en terminant, j'ai une dernière question.
Oui.
Quel document vous cherchez dans votre sacoche et l'avez-vous trouvé?
Ça, là, j'en reviens pas de cette affaire-là. Moi, je me promène avec très peu de documents au quotidien. La majorité des choses sont dans ma tête, mais j'ai une petite pile de documents que je garde dans ma grosse sacoche. Et pendant que je répondais à Joël Arsenault, mon collègue, et lui pourra vous confirmer que pendant ce temps-là, je lui répondais, là, je cherchais un document sur l'aérien, qui était le sujet qu'on abordait. Et hier, au Salon Bleu, on m'a posé une question et j'ai refait la même chose. J'ai pris la sacoche, j'ai sorti la pile de feuilles devant tout le monde et j'ai dit, voyez le premier document qui est sur le dessus, porte sur l'aérien, qui était le document dont j'avais besoin quand je parlais à M. Arsenault hier.
Madame Guilbeault, venez faire un tour à Montréal, prenez un autobus, un métro, un petit tour dans le REM, venez voir vos structures.
Ben, je suis très souvent à Montréal. Je passe dans le tunnel, je passe partout.
Non, non, transport collectif. Faut essayer le transport collectif. À Paris, vous avez aimé ça, on vous a vu les photos, c'était extraordinaire. Mais là, Montréal aussi, il faut venir voir ça.
Oui, non, mais je le prends. Moi, je prends souvent la ligne verte en général, puis c'est ça, le REM, dépendant quand j'ai besoin de me rendre sur la rive sud. Mais ça me fera plaisir d'aller en studio vous voir la prochaine fois.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. Au revoir. Bonne journée.
Geneviève Guilbeault est la ministre du Transport et de la Mobilité durable.
C'est 23.